Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver bien sûr pour une nouvelle édition de l'heure du crime. Quand je dis nous, c'est Perrine Suquet, Margot Agnès, aujourd'hui c'est Marc Bisset qui est à la technique de l'heure du crime. Et à la une, vous l'avez peut-être entendu quand on a parlé juste avant les infos avec Christelle Rebière et Vincent Parisot, c'est la secte Aoum. Alors peut-être une secte un peu oubliée aujourd'hui, quoique le 20 mars 1995, quand il y a eu cet attentat dans le métro de Tokyo, évidemment. La nouvelle a fait le tour du monde. Et pourquoi on en reparle spécifiquement aujourd'hui ? C'est tout simplement parce qu'il y a actuellement un procès en cours à Tokyo, procès qui s'est ouvert le 16 janvier dernier. Je le disais tout à l'heure, le gourou de la secte et 13 membres qui avaient été impliqués dans l'attentat au gaz sarin sont en prison, bien sûr, et ils ont été condamnés à mort en 2004, mais ils sont toujours en attente de leur exécution, qui pourrait être imminente, on y reviendra tout à l'heure, avec Karine Poupé qui est à l'AFP de Tokyo, que nous rejoindrons dans quelques minutes pour parler de ce procès, pour parler aussi de l'empreinte de cet extraordinaire fait divers dans la société japonaise. On parlera également, on aura un témoignage formidable tout à l'heure dans quelques minutes, celui de Jérôme Lidolf. Jérôme Lidolf est journaliste, il est actuellement rédacteur en chef adjoint à France 3 Franche-Comté, et il était entre 1995 et 1997, le correspondant d'RTL à Tokyo. Il a vraiment vécu aux premières loges, si je puis dire, cet attentat dans le métro de Tokyo. Et puis nous avons également, pour prendre peut-être un petit peu de recul, le recul de l'analyse, Christophe Sabouret. Il est historien, c'est un spécialiste du Japon, il est ingénieur d'études au CNRS, au laboratoire Réseau Asie, et il a beaucoup réfléchi, évidemment, et il se trouve qu'il était également là-bas sur place en 1995. Alors, on reparle de tout ça avec mes invités dans un instant. On va essayer de comprendre comment cette secte a pu naître dans ce pays. Mais tout de suite, on va se rappeler ensemble les circonstances de l'attaque et aussi l'enquête de la police japonaise, telle que les auditeurs d'RTL ont pu les vivre à l'époque à travers les analyses et les reportages de la rédaction. 20 mars 1995. Ce jour-là, des disciples de la secte Aoum, vérité suprême, lancent des sacs remplis de gaz sarin, plus mortels que le cyanure, dans 5 rames du métro de Tokyo, qui convergent vers la station de Kasumi Gaseki, en plein centre du quartier des ministères. En quelques minutes, la station prend des allures de champ de bataille avec des centaines de passagers paniqués qui se ruent vers la sortie alors que des dizaines d'autres voyageurs s'effondrent et agonisent en saignant du nez et de la bouche. Le désordre est indescriptible. Les secours s'organisent au milieu d'une panique générale, une panique filmée en direct par les reporters de dizaines de télévisions japonaises envoyées aussitôt sur place par leur rédaction. L'enquête de la police va s'orienter très vite vers une secte qui est sous surveillance depuis plusieurs années, on en reparlera tout à l'heure. La secte est dirigée par un gourou illuminé, Shoko Asahara, qui regroupe plusieurs milliers d'adeptes, une dizaine de milliers, dans une immense propriété située au pied du mont Fuji. Deux jours après l'attentat, une perquisition dans les locaux de cette secte confirme la présence de produits chimiques. Le lendemain matin, 23 mars, la nouvelle fait bien sûr l'ouverture du journal sur RTL, du journal présenté par Bernard Poirette et Jacques Esnoux. À ce moment-là, je précise, on ne sait pas encore s'il s'agit vraiment d'un attentat.
Pour commencer ce journal donc, le mystère dans le métro de Tokyo. Un gaz mortel a fait 6 morts et 1 millier de blessés, dont 16 sont dans un état grave.
Selon les tout premiers éléments de l'enquête, Étienne Baudu, le gaz en question serait du sarin, c'est-à-dire un poison chimique ultra-violent utilisé dans le domaine militaire. Et le gouvernement japonais d'ores et déjà parle d'attentat.
Oui, d'attentat. La police parle, elle, de sabotage et a ouvert une enquête pour meurtre collectif. En tout cas, d'importants moyens ont été mis sur pied. L'armée a même envoyé sur place une unité spéciale de lutte contre la guerre chimique. Alors que s'est-il passé? passé exactement à l'heure d'affluence ce matin. Un gaz toxique s'est répandu dans 14 stations de métro dans le centre de Tokyo. On ne connaît pas encore l'origine de ces émanations. Certains témoins auraient entendu une explosion, d'autres auraient remarqué dans un wagon un paquet enveloppé dans du papier journal, d'autres encore auraient vu un homme, le visage recouvert d'un masque, déposer un paquet sur le quai d'une station. Quoi qu'il en soit, les symptômes observés, nausées, irritation des yeux, saignements de nez, vomissements, tout indique qu'il s'agit bien d'un gaz hautement toxique, le sarin. Le sarin est un produit mortel utilisé dans les armes chimiques. Une petite quantité seulement suffit à paralyser le système nerveux et cardiaque. Alors cette affaire en rappelle une autre. En juin dernier, un accident similaire s'était produit à Matsumoto, dans le centre du Japon. 7 personnes étaient décédées après l'inhalation de ce gaz toxique, le sarin. La police n'avait pas élucidé alors ce mystérieux accident. Aujourd'hui, à la lumière des événements de ce matin, il semblerait que l'on puisse avancer effectivement la thèse de l'attentat.
Premier bilan, selon les informations recueillies à l'époque par Étienne Baudu, 6 morts et 1 millier de personnes intoxiquées. On va voir que ce bilan va s'alourdir dans les jours suivants. Le soir du 20 mars, donc, on est très vite persuadé qu'il s'agit bien d'un attentat. L'acte n'a pas été revendiqué, il a semé évidemment la panique, il inquiète désormais tous les habitants de Tokyo. Et pour la première fois, on évoque publiquement le nom de la secte Aum.
Ce soir, les habitants de Tokyo sont extrêmement choqués devant les images des spécialistes des forces d'autodéfense vêtus de combinaisons antibactériologiques empruntant les couloirs du métro. Selon des témoignages, un homme âgé d'une trentaine d'années aurait lâché dans le compartiment du métro une boîte contenant le gaz avant de s'enfuir. Mais il semble de plus en plus difficile à croire à un acte de démence isolé. En juin dernier, une intoxication mystérieuse, toujours avec ce même gaz, tuait 7 personnes et contaminait près de 200 autres à Matsumoto dans le centre du Japon. Un gaz que semble fréquenter étrangement une secte religieuse du nom de Shinrin-kyo. La secte portait plainte en juin dernier contre un directeur de société l'accusant de diffuser ce même gaz toxique sarin dans son lieu de culte. Mais un an auparavant, les habitants du quartier de Tokyo se plaignaient de fumée blanche toxique émanant de l'immeuble appartenant à cette même secte.
C'était le récit de Jérôme Lidolf, le correspondant d'RTL à Tokyo à l'époque. On retrouvera d'ailleurs tout à l'heure dans cette émission pour entendre son témoignage. Mais restons dans la chronologie des événements à l'époque. 2 jours plus tard, une perquisition dans les locaux de la secte confirme la présence de produits chimiques. Le lendemain matin, 23 mars, la nouvelle fait bien sûr l'ouverture du journal d'RTL Matin avec une nouvelle correspondance de Jérôme Lidolf.
Les inspecteurs japonais ont découvert un véritable arsenal chimique dans les 11 bâtiments qui constituent le quartier général de la secte au pied du mont Fuji. Un deuxième solvant, du cyanide de méthyle, utilisable pour dissoudre le gaz mortel, a été identifié. Mais surtout, les policiers japonais, épaulés par des équipes de l'armée japonaise spécialisées dans les attaques chimiques, ont découvert des produits très dangereux, entrant directement dans la composition du gaz mortel. Fluoride de sodium, trichlorophosphate, autant de produits toxiques bien éloignés des besoins d'une organisation religieuse. La découverte de masques à gaz dans un coffre d'une voiture appartenant à des membres de la secte confirme bien l'étrange passion de l'Aum Shinrin-kyo pour des produits chimiques très dangereux.
25 mars, la police japonaise est sur les dents. Elle étend ses perquisitions à tous les lieux appartenant à la secte sur l'ensemble du territoire japonais. Et les enquêteurs ne tardent pas à faire de nouvelles découvertes, comme le raconte sur RTL depuis Tokyo, donc Jérôme Lidolf.
Ce sont des tonnes de produits chimiques que les enquêteurs japonais continuent d'évacuer des bâtiments de la secte Aum Shinrin-kyo. Citant des sources proches de la police, le Daily Yomiuri d'aujourd'hui affirme que les quantités saisies seraient suffisantes pour fabriquer une quantité de sarin capable de tuer 4 millions de personnes. De l'acide nitrique et de la glycérine, les principaux composants nécessaires à la fabrication de l'explosif appelé nitroglycérine, ont également été découverts. C'est un véritable arsenal chimique que possédait la secte, dont le leader, Shoko Asahara, affirmait dans un communiqué diffusé par la télévision japonaise que ces produits servaient en réalité comme engrais ou à faire de la poterie. Un homme qui reste toujours insaisissable par les services de la police japonaise.
Nous sommes maintenant le 29 avril et ce jour-là, on apprend que les scientifiques travaillant pour la secte Aum ont bien fabriqué le gaz mortel dans un laboratoire secret qui a été découvert par la police, comme l'expliquait sur RTL Jérôme Lidolf.
Nos dernières infos, dernier développement donc à Tokyo. La police a maintenant la preuve que du sarin a bien été fabriqué dans les laboratoires de la secte Aum. Derrière un mur, un nouveau laboratoire a été découvert. Jérôme Lidolf à Tokyo.
C'est bien la secte Aum Shinrin-kyo qui a produit le gaz mortel sarin responsable de l'empoisonnement du métro de Tokyo. La police japonaise est désormais convaincue que le laboratoire secret découvert dans le quartier général de la secte servait bien à la fabrication du gaz mortel. Une étape importante de l'enquête semble donc avoir été franchie aujourd'hui. Aujourd'hui, par les enquêteurs japonais, reste à trouver parmi les membres de la secte les chimistes capables de fabriquer le gaz mortel, mais surtout les véritables commanditaires de l'empoisonnement du métro de Tokyo.
Un document donc du 29 avril 1995, l'ouverture du journal de Jean-Jacques Bourdin à la mi-journée. Alors pendant le mois d'avril, on va en apprendre plus. On va d'ailleurs apprendre presque chaque jour de nouveaux éléments distillés au compte-gouttes par les enquêteurs japonais. Par exemple, le 22 avril, l'opinion japonaise apprend avec stupéfaction que la secte possédait un véritable complexe industriel permettant de fabriquer une quantité de gaz sarin qui aurait pu causer la mort de plusieurs millions de personnes. Sur RTL, Jean-Pierre Tison et Jérôme Lidolf racontent ces nouvelles découvertes des enquêteurs japonais.
Après une semaine d'investigation dans le bâtiment appelé Satyan numéro 7, c'est-à-dire la vérité en sanskrit, situé dans le quartier général de la secte au pied du mont Fuji, les enquêteurs ont découvert un complexe technologique extrêmement sophistiqué, capable apparemment de piloter automatiquement les quatre premières étapes chimiques à la composition de ce gaz mortel.
Donc les taux se resserrent sur la secte.
Oui, en effet, après le nouvel attentat mystérieux dans ce grand magasin de Yokohama hier soir, la police et le gouvernement japonais accentuent donc sa pression sur la secte Aum Shinrin-kyo. Le gouvernement japonais, après le soutien déclaré du gouverneur de Tokyo, pourrait donc en effet dès lundi commencer une procédure juridique visant à la dissolution de la secte pour atteindre à l'ordre public. Il était grand temps, les quelques arrestations des membres n'ont été pour l'instant faites sous des inculpations mineures, infractions au code de la route ou détention d'armes blanches. Et c'est vrai qu'aujourd'hui au Japon, les gens ont peur de prendre le métro et il fallait effectivement que le gouvernement prenne une position beaucoup plus ferme.
Et nous sommes maintenant au milieu du mois de mai 1995, deux mois, presque jour pour jour après l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. La police japonaise met enfin la main sur le gourou de la secte qui était en fuite jusque-là. Une arrestation racontée sur l'antenne d'RTL le 16 mai 1995 dans le journal de 6h du matin par Jérôme Lidolf.
C'est bien dans le quartier général de la secte au pied du mont Fuji que la police japonaise a découvert tôt ce matin le gourou Shoko Asahara. Après avoir découpé la porte au chalumeau du bâtiment Satyan numéro 6, la vérité en sanskrit, les enquêteurs ont surpris le gourou en position de méditation dans une chambre secrète. L'obtention hier d'un mandat d'arrêt pour préparation de meurtre à l'encontre du leader et de 40 membres de la secte a permis à la police japonaise de déclencher ce matin une opération d'envergure sur l'ensemble du territoire. Shoko Asahara a été immédiatement transféré sous forte escorte vers les locaux de la police de Tokyo. L'interrogatoire de Shitsuo Matsumoto, le vrai nom du leader de l'Aum Shinrin-kyo, devrait permettre enfin de faire toute la lumière sur les motivations de la secte à organiser l'empoisonnement du métro de Tokyo au gaz sarin.
Voilà, et nous allons retrouver Jérôme Lidolf en direct, version donc 2014 dans quelques instants, dans cette émission, en compagnie d'ailleurs de Karine Poupée, que nous joindrons à Tokyo. Elle est journaliste à l'AFP à Tokyo, et avec Christophe Sabouret, nous vous donnerons les éclairages que peut donner un spécialiste de l'Asie. Si vous avez des questions, des réactions ou des témoignages, si vous étiez peut-être en 1995, vous aussi présent au Japon, c'est le 3210 pour le téléphone, ou rtl.fr si vous préférez l'internet.
L'heure du crime sur RTL.
Émission spéciale consacrée à la secte Aum, à cet attentat dans le métro de Tokyo en 1995, mais aussi à l'actualité éventuellement de la secte et à l'actualité de l'affaire, puisque, je le disais au début de cette émission, depuis le 16 janvier dernier, le procès de l'un des derniers responsables de la secte en fuite jusqu'à ce qu'il se rende en fait à la police en décembre 2011, s'est ouvert. Nous avons maintenant en ligne la journaliste de la AFP, Agence France Presse, Karine Poupée, donc du bureau de l'AFP à Tokyo. Bonjour Karine.
Bonjour Jacques, bonjour tout le monde.
Alors d'un mot, alors on reviendra avec vous très longuement aussi sur cette période toute proche de l'attentat de 95, parce que je crois que vous êtes arrivé à Tokyo en tant que journaliste l'année suivante. Hein.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais parlons de quelques instants de ce procès. Monsieur Makoto Hirata, donc, qui est actuellement jugé, n'est pas jugé pour l'attentat du métro, hein ?
Non, c'est ça qu'il faut préciser d'emblée, effectivement. Il n'est pas du tout jugé pour l'attentat du métro. Il est jugé pour d'autres faits, pour l'enlèvement d'un notaire qui tentait de sortir sa sœur de cette secte, d'une part, et puis il est jugé également pour la pose de bombes dans un immeuble. D'accord. Mais pas du tout pour l'attentat au Gacharin, et il ne plaide pas coupable dans les deux cas, puisqu'il dit avoir ignoré les objectifs des choses qu'on lui faisait faire.
Oui, mais alors, Karine Poupée, est-ce que, évidemment, le fait que ce procès s'ouvre, on reparle de la secte Aum, j'imagine que ça fait une sorte de piqûre de rappel à l'opinion japonaise. Est-ce qu'il y a encore une empreinte sensible de cet événement 19 ans après ?
Oui, il y a une empreinte sensible, effectivement. Alors, ça n'empêche pas, et bien évidemment, les gens de prendre le métro de Tokyo. Il n'y a plus cette psychose à monter dans le métro de Tokyo. En revanche, le fait que cet attentat ait eu lieu en 95 est rappelé très, très souvent, ne serait-ce que pour les anniversaires. Hein. Les Japonais ont cette habitude de commémorer énormément d'anniversaires, que ce soit des faits divers ou que ce soit des événements de plus grande ampleur. Oui. Et celui-là, bien évidemment, tous les ans, on nous rappelle qu'il a eu lieu, et en plus il a eu lieu une année où il s'est passé beaucoup d'événements tragiques au Japon. Il suffit de citer le tremblement de terre de Kobe qui avait eu lieu 2 mois auparavant, donc c'était une année noire pour les Japonais. Oui. Et tout ça revient très régulièrement, et puis là il y a ce procès effectivement qui fait que ça refait la une de l'actualité. Et puis quand le Makoto Hirata en question s'est rendu, et bien sûr ça a fait la une de l'actualité. Et puis ensuite on a retrouvé les deux autres fugitifs qui manquaient encore, donc ça refait la une de l'actualité. Oui. Donc,
l'année d'après, en 2012, hein, je crois, ils ne sont pas encore jugés, mais ils vont être jugés aussi. Hein,
ils vont être jugés aussi, exactement. Oui.
Alors, on vous retrouve tout à l'heure, Karine Poupée, on reviendra avec vous, bien sûr, sur tout ce qu'on a pu apprendre dans les semaines, les mois et les années qui ont suivi ces attentats de 1995, mais tout de suite, on va prendre en ligne le journaliste Jérôme Lidolf. Bonjour.
Bonjour.
Et
bonjour.
Merci. Donc, vous êtes actuellement rédacteur en chef adjoint à France 3, Franche-Comté. Et vous étiez le correspondant d'RTL au Japon à cette époque-là. En fait, vous avez, quand je disais tout à l'heure au début de l'émission, que vous avez vraiment vécu, aux premières loges, cette affaire-là, dites-nous ce que vous faisiez ce jour du 20 mars 95.
Eh bien, ce jour du 20 mars 95, j'allais prendre tout simplement, comme des millions de gens, le métro pour me rendre vers le centre de Tokyo. J'habitais donc dans le quartier ouest de Setagaya, et donc j'étais, ma ligne de métro, c'est la ligne Ibiya, l'une des trois lignes qui a été touchée par la secte. Il était environ 7h30, j'arrive à ma petite gare et je vois le métro arriver, et je me dis, bon là, il y a deux solutions, soit je me mets à courir et je suis pas sûr de l'attraper, soit tant pis, je le laisse passer. Et donc j'ai laissé passer ce métro. Trois stations plus tard, ce métro va donc s'arrêter à la gare de Nakameguro. Et c'est dans cette gare, maintenant on le sait précisément, qu'à 7h49, deux membres de la secte vont monter à l'avant du train, dans le premier wagon, avec deux sacs en plastique remplis de sarin. Moi, de mon côté, j'attends le prochain métro. Il met du temps. On ne sait pas très bien ce qui se passe. On arrive finalement à cette fameuse gare de Nakameguro. Là, tout est bloqué. On sait qu'il y a eu des incidents sur les lignes, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et puis, voilà, on est aussi habitué à Tokyo à des fois avoir des incidents sur les lignes. C'est bien normal. Donc, je fais tout un détour pour essayer de rejoindre le club des correspondants étrangers qui est dans un quartier un peu central, même s'il n'y a pas vraiment de centre à Tokyo. Et lorsque j'arrive, après plusieurs heures de galère, puisque évidemment...
La circulation doit être bloquée.
C'est comme si on coupait un seul coup la ligne A, B, C du RER et qu'il était impossible de passer par les Halles. Donc c'était très compliqué. J'arrive finalement et là une atmosphère très bizarre. Je me souviens bien, d'abord il faisait beau, c'était un temps de printemps japonais, mais il y avait
pratiquement personne dans les rues, ce qui est quand même absolument inimaginable. Je croise une collègue indienne qui me dit « Écoute, il s'est passé quelque chose à Kasumigasaki, on ne sait pas très bien, mais il s'est passé quelque chose de grave. » Donc on fonce à pied, on essaye d'arriver à une station de métro, parce que c'est des stations énormes, avec des dizaines d'entrées. Et au moment où on essaye de rentrer dans la station, on est bloqué, et là, c'est vrai que je m'en souviendrai quand même toute ma vie de cette image, par deux hommes en scaphandre, de lutte contre les guerres bactériologiques. Et alors, à ce moment-là, on comprend effectivement ce qui s'est passé, quelque chose de très grave.
Voilà. Alors, Jérôme Lidolf, vous restez en ligne encore quelques minutes ou vous êtes pris par vos activités?
Non, il n'y a pas de souci.
On fait la cuisine en direct, là.
Il n'y a pas de souci.
Alors, on vous retrouve dans quelques instants avec Christophe Sabouret, qui est également mon invité aujourd'hui, donc qui est, lui, spécialiste du Japon, ingénieur d'études au CNRS, au laboratoire Réseau Asie, qui se trouvait à Tokyo également, enfin au Japon, en tout cas dans ces années-là. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et on revient donc à cette secte Aum avec, tout à l'heure, nous retournerons à Tokyo pour savoir ce qui se passe dans le procès d'un des derniers dignitaires de la secte, j'allais dire de la bande, mais c'est quand même une bande de malfaiteurs. Hein. Donc, il y a ce procès en cours, qu'est-ce qu'il risque, que disent les témoins, on en parlera donc avec Karine Poupé qui sera en ligne à nouveau de Tokyo. Et puis tout de suite, avec Jérôme Lidolf et avec vous, Christophe Sabouret, je vais vous donner la parole d'ailleurs avant de retrouver Jérôme Lidolf. On essaye de comprendre déjà clairement, si c'est possible, qu'est-ce que c'est que cette secte, qui est ce gourou, comment on arrive dans un pays comme le Japon avec seulement 10 000 adeptes à créer un chaos comme ça. D'où vient cette secte? Vous étiez là-bas à Tokyo en 95. Quand on a dit « Ah, c'est la secte Aum », ça vous a dit quelque chose?
Oui, le nom de la secte Aum Shinriko en japonais figurait assez souvent dans les magazines à propos d'affaires que portaient devant la justice des citoyens, des simples citoyens.
C'est-à-dire des gens familles qui voulaient récupérer
des
membres,
victimes de mauvais agissements de la part de la secte, avec des victimes des vrais morts. Ouais. C'est notamment pour cette affaire, pour ce type d'affaire, que Hirata est actuellement devant les tribunaux.
D'accord. Ouais.
Donc le nom de la secte n'était pas inconnu. Ça n'était pas la secte la plus importante. Ça n'était pas non plus la secte la plus ancienne. Mais à la différence d'autres sectes New Age nées dans les années 80, c'était on les appelait les sectes de la bulle économique. Ouais. C'était une secte millénariste qui entendait provoquer en fait le choc pour le grand soir.
C'est ça. Donc ils profitaient de cette ambiance de crise économique, d'inquiétude de la population, pour dire il y a le bien et il y a le mal. Nous sommes évidemment le bien.
Nous sommes évidemment le bien.
Le bien doit se battre contre le mal, et le mal c'est l'État.
Absolument. Ouais. Et donc ils avaient une attitude très active, très proactive. Alors, après leur échec de jouer un rôle sur la scène politique, parce qu'ils avaient présenté les candidats aux élections législatives, ils se sont tous pris un râteau, y compris Asahara Shoko. Ouais.
C'est le nom du... Pour ceux qui ne sont pas familiers du japonais, c'est le nom du gourou, d'accord.
Le gourou, la tactique suivante a été, non pas de faire de l'entrisme, mais de provoquer un choc.
Ouais.
On est toujours à la recherche de la motivation de cet attentat du 20 mars.
Le mobile. Ils n'ont pas exprimé le mobile.
Donc je pense que les Japonais, qui ont été profondément secoués, choqués, bouleversés par cet attentat, attendent beaucoup du procès actuel.
Pour savoir pourquoi.
Ouais. L'une des raisons qui sont avancées, c'est les juges s'approcher, s'intéresser de beaucoup trop près à la secte, et était sur le point de découvrir les agissements que malheureusement on a découvert par la suite.
D'accord, donc ils auraient créé ce chaos pour créer une diversion.
Une forme de diversion.
Ouais, voilà. Alors, Jérôme Lidolf, je sais que vous avez du travail et vous aviez dit que vous n'avez pas trop de temps. Bon, je reviens à vous parce que j'ai fait pour préparer l'émission une sorte de chronologie des exploits entre guillemets de cette secte entre 89 et 95, c'est-à-dire avant l'attentat de Tokyo. Vous avez découvert, vous, cette litanie d'événements, de meurtres, de tentatives de répandre de la toxine botulique, d'aller se procurer du virus Ebola au Zaïre. Enfin, vous avez dû être consterné à l'époque en tant que journaliste quand vous avez travaillé pour votre enquête.
Oui, alors absolument, on était consternés. C'est vrai que c'est bien de le rappeler que il y a eu une tentative légale de prise de pouvoir de la secte, et c'est bien de le rappeler que c'est en 1990. C'est un tournant, en tout cas dans cette affaire, puisqu'en fait, la secte fait une tentative de rentrer officiellement dans le pouvoir japonais, se fait effectivement balader, et là change complètement de comportement. Il y a juste une chose que je voudrais aussi rajouter concernant les sectes au Japon à ce moment-là. Je ne sais pas si ça a changé, mais les sectes bénéficiaient d'une totale exemption fiscale. Oui. Donc, ce qui faisait qu'il y avait quand même des intérêts en dehors d'apporter de la lumière ou un changement dans sa vie. Il y avait aussi des intérêts financiers extrêmement importants, et ce qui explique le pouvoir de cette secte, en tout cas d'avoir une capacité financière à acheter effectivement des choses absolument incroyables. Enfin, je veux dire, ils ont même réussi quand même à acheter un espèce de vieil hélicoptère russe. Pour avoir le projet de bombarder Tokyo. Donc c'était effectivement totalement effrayant. Après, sur l'information, c'était une période un peu compliquée. On était à la fois saturé d'informations dans tous les sens, mais on avait beaucoup de mal à effectivement avoir une vision un peu globale. Je sais que les gens qui étaient des voisins de la secte se plaignaient. Moi, je suis allé plusieurs fois au pied du Mont Fuji, ce qu'on appelle les Saitian, ces espèces de bunkers.
C'était le centre fort, si j'ose dire, de la secte.
Névralgique et d'usines chimiques. Ouais. Et depuis des années, les petits paysans se plaignaient à la police d'odeurs suspectes, de comportements étranges. Et c'est vrai que quand on partait de comportements étranges, je sais que la première fois que je suis arrivé sur les lieux, c'était un espèce de... c'est un endroit, en théorie, assez magnifique, montagneux, dans le brouillard, et tout d'un coup, vous voyez des jeunes garçons vêtus en blanc avec des électrodes sur la tête qui étaient branchées directement aux vibrations du gourou. Donc tout ça, c'était extrêmement étrange. À cela s'ajoute que dans le traumatisme, il y a d'abord, c'était des Japonais qui attaquaient, qui tuaient des Japonais. Oui. Donc ça a été extrêmement traumatisant. Et puis d'autre part, il y avait des brillants étudiants. Celui notamment qui a percé les sacs de sarin à Nakameguro sur la ligne Miya. Oui. Il était diplômé de l'université de Tokyo, c'est-à-dire l'élite de la formation japonaise.
C'est un thriller de science-fiction, quoi, en fait.
Imaginez que, je sais pas, on apprenait que des anciens étudiants de polytechnique se mettaient à verser du gaz sarin. Donc c'est à peu près, enfin, c'est des raccourcis, mais c'est pour comprendre que il y a eu, le gamin, il avait 27 ans, il devait passer un doctorat à Tokyo, à l'université de Tokyo, et finalement il rentre dans la secte. Donc oui, c'est très étrange et c'est une histoire extrêmement compliquée.
On va faire une pause dans l'émission. Je vous retrouve tout de suite après parce qu'il y a une question que je voulais vous poser. Tout simplement de savoir qu'est-ce qui vous reste de tout ça. Est-ce que ça vous a évidemment marqué, on le suppose, dans votre carrière de journaliste. On se retrouve dans quelques secondes.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Nous allons retrouver tout de suite Jérôme Lidolf, donc en direct sur RTL cet après-midi pour parler, pour revenir sur ces événements de 1995 qui, vous l'avez compris, qu'il a vécu vraiment en direct. Alors il a fait évidemment son travail de journaliste, mais en même temps, Jérôme Lidolf, j'imagine que on est extrêmement perméable aux émotions quand on suit une affaire aussi énorme que celle-là. Qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui ?
Qu'il ne faut jamais courir pour prendre son métro. Voilà. Non, c'est... voilà.
Ben, ça, c'est, voilà. Voilà, c'est ça. Jamais...
Non, mais... Non, sérieusement, évidemment, quand on est journaliste et qu'on est... qu'on rêve d'être installé au Japon, qu'on se retrouve à une année 95 qui commence par le tremblement de terre de Kobe et qui s'enchaîne par cette affaire de secte, c'est à la fois passionnant, terrorisant par moments, parce que, voilà... il y a des souvenirs, oui, voilà, c'était extrêmement étrange. C'est vrai que c'est, je me souviens que, les, par exemple, les Américains étaient extrêmement inquiets sur cette affaire, presque plus que les Japonais, notamment parce que pour eux, c'était un cap extrêmement important qui venait d'être franchi. C'était l'utilisation par un groupe terroriste, enfin, en tout cas dans un acte terroriste, de produits chimiques dans la deuxième puissance économique mondiale. Et il y avait vraiment beaucoup d'inquiétudes.
Ouais, et puis il y a ce qu'on, je l'ai dit très rapidement là, mais on est sûr qu'en 92, il y a eu une mission prétendument humanitaire de la secte en Afrique, au Zaïre, et ils ont essayé de se procurer le virus Ebola. Ils ont disséminé de l'anthrax du haut d'un immeuble. Bon, heureusement, ils ont raté leur coup. Enfin, ils l'ont quand même fait. Et ils avaient fait un premier attentat comme une sorte de répétition, attentat au gaz sarin, en 94, l'année d'avant, dans la ville de Matsumoto, où il y avait déjà eu 8 morts quand même. On en a parlé tout à l'heure très rapidement.
Absolument.
Quoi.
Et là, il y a une interrogation effectivement sur le pourquoi les enquêteurs ont mis tant de temps. Alors c'est vrai que on est au Japon.
On a parlé de protection à l'époque. Hein, quand même,
Oui. Et puis, mais ce qui était très étrange, c'est que c'était à la fois des gens capables apparemment d'une certaine sophistication technologique, et en même temps, ils ont raté un attentat qui aurait pu être dévastateur au cyanure au mois d'avril, si je me souviens bien, dans le métro de Tokyo, où là, la technologie était quand même extrêmement rudimentaire. Il y avait d'un côté deux poches en plastique, l'une avec de l'eau, l'autre avec des cristaux de cyanure, un espèce de petit robot ridicule avec des lames de rasoir qui devaient percer les deux sacs. Fort heureusement, les deux sacs n'ont pas été percés parce que c'était dans des toilettes de la gare de Shinjuku et ça aurait été un massacre. Ouais. Donc c'était très bizarre parce qu'ils avaient d'un côté des liens un petit peu internationaux, enfin semble-t-il.
Ils étaient en Australie, en Russie, voilà. Ouais, oui.
Voilà, où ils en achetaient déjà. Ouais. Et en même temps, c'était des technologies des fois d'un peu de branquignol, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui fait le côté un petit peu spécifique et unique de cette affaire.
Ça fout la trouille, comme on dit quand même.
Ça foutait la trouille à l'époque, et c'est vrai moi je me rappelle que on se posait des questions à savoir quelle ligne de... Voilà, il y a eu une parano parce que ça a duré. Il a été arrêté au mois de mai.
Puis alors les autres après sont partis en cavale, on va en parler dans quelques secondes avec Karine Poupée de l'AFP Tokyo qui suit le procès d'un des derniers dignitaires. Je vous remercie beaucoup de ce témoignage, Jérôme Lidoff. Merci infiniment, et on file tout de suite à Tokyo donc pour retrouver Karine Poupée. Alors maintenant, parlez-nous de cet homme qui passe en jugement, Karine Poupée, depuis le 16 janvier dernier. Qu'est-ce qui se dit au cours du procès? Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qu'il risque?
Bon, alors c'est un procès qui est particulier sur plusieurs aspects. Bon, d'abord parce qu'effectivement, c'est un des derniers de la secte à homme à être jugé. Il y en a eu 189 autres, il y en a eu 13 condamnés à mort. Celui-là, est resté en cavale pendant plus de 16 ans, donc là aussi c'est un élément tout à fait particulier. C'est un procès, alors l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir des informations nouvelles sur ce qu'était cette secte, sur ce qu'ils ont fait, sur comment ils ont préparé cet attentat. Ça, ce sont des éléments qu'on attend, mais surtout en fait ce procès c'est aussi un défilé de condamnés à mort, et ça c'est exceptionnel parce que viennent à ce procès des gens qu'on sort pour la première fois de prison, qui sont dans les couloirs de la mort et qui viennent, qui sont protégés, évidemment.
Ceux qui ont été condamnés avec le gourou en 2004 à la pendaison.
Hein. Exactement, exactement.
Et qui sont toujours en attente, d'accord. Il y en a trois qui ont été exécutés.
Ah non, il y en a trois qui sont, il n'y en a aucun qui a été exécuté, mais il y en a trois qui sont venus témoigner là au procès de Hirata pour dire ce que ce monsieur savait ou ne savait pas de leur point de vue.
D'accord.
Mais alors ce qui est étonnant, c'est qu'ils s'excusent. Ils demandent aux victimes de les excuser pour ce qu'ils ont fait, alors qu'ils sont déjà condamnés à mort et que de toute façon, ils n'ont aucune chance d'en réchapper.
Oui, bon, enfin, tant mieux, peut-être qu'ils sont sincères pour une fois.
Oui, peut-être qu'ils sont sincères. Alors, ce monsieur Hirata, lui, qu'a-t-il fait pendant 17 ans? Eh bien, oui. Il s'est planqué pendant 17 ans. Il a été caché par une femme qui était amoureuse de lui et qui l'a gardé, qui l'a nourri. Et il n'est sorti, paraît-il, que 3 fois en l'espace de 17 ans lorsqu'il a déménagé.
D'accord. Ça, c'est quelque chose
d'extraordinaire. Donc, c'est une vie dont il ne pouvait plus, en fait. Et c'est pour ça qu'il s'est rendu.
Ouais. Alors, dites-moi, lui, il est impliqué dans d'autres choses. On ne va pas prendre le détail, là, parce que le procès va durer jusqu'à quand, à votre avis?
Il va durer 2 mois environ, le procès. Hein. Donc, il a démarré en janvier. Ouais. On pense qu'il devrait se terminer en mars.
Il risque la peine de mort?
Je ne pense pas qu'il risque la peine de mort parce qu'il n'est pas condamné pour, il n'est pas jugé pour des meurtres.
Ah bon, je croyais qu'il était impliqué dans l'enlèvement et l'assassinat d'un avocat en 89. Il y avait un avocat, toute sa famille, son épouse, un bébé de 14 mois qui avait été tué par la secte, parce qu'il avait porté plainte contre elle, je crois.
Alors, lui n'est pas jugé, me semble-t-il, pour ce fait-là, mais lui, il est jugé pour l'enlèvement d'une autre personne qui a été tuée, mais il n'est pas concerné, il n'y a pas de charge sur...
D'accord, donc
sur,
il ne risque pas sa tête, quoi, si j'ose dire, là.
Normalement, non.
Juste une toute dernière question, Karine Poupée, parce qu'après, je voudrais garder quelques minutes avec Christophe Sabouret pour essayer d'aller un peu plus loin, de mettre en perspective cet événement et puis ce type de secte dans le contexte de l'Asie. Dernière question, Karine Poupée. Je disais au début de l'émission certains journalistes japonais avaient plus ou moins laissé entendre que le gourou et ses 13 les 13 personnes qui ont été donc condamnées à mort allaient être exécutées peut-être cette année. Est-ce que vous pensez qu'on attend la fin de ce procès-là?
Je pense qu'effectivement, c'est un élément qui a joué dans le fait qu'ils sont restés longtemps dans les couloirs de la mort et qu'ils y sont encore. De là à en déduire qu'une fois que ce procès sera terminé, on n'hésitera plus à les pendre. Là, je suis plus sceptique dans le sens où personne ne sait jamais quand quelqu'un sera exécuté. Puis qu'en plus, il y a encore 2 autres membres qui doivent être jugés, comme on l'a dit tout à l'heure.
Voilà, donc il y a des rumeurs pour l'instant, mais il n'y a pas d'informations précises, concrètes sur l'exécution possible. Je vous remercie, merci infiniment. On sera peut-être amené à reparler un jour ou l'autre. On va rester en contact. Au moment,
avec plaisir.
On vous rappellera au moment du verdict de ce procès. Merci beaucoup, Karine Poupée. Dernière pause donc dans cette émission. On retrouve ensuite Christophe Sabouret. On va essayer de répondre à toutes les questions que pose ce type d'affaires.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission Christophe Sabouret. Donc je rappelle, si vous prenez l'émission en cours de route, Christophe Sabouret est historien, spécialiste du Japon, ingénieur d'études au CNRS, au laboratoire Réseau Asie. Alors, avant de vous donner la parole, on va évoquer le personnage quand même central de cette secte, ce gourou, sans qui quand même rien ne serait arrivé, puisque c'est lui qui a imaginé tout ça. Et cet homme, on l'a dit à plusieurs reprises, a été donc condamné à mort en février 2004. On va entendre à ce propos un document RTL de l'époque. Il y a eu une coïncidence étrange dans ce procès d'ailleurs, c'est que il s'est déroulé tout près de l'endroit où a eu lieu l'attentat dans la fameuse station de métro. On va écouter ce que disait du verdict de ce procès Joël Legendre sur RTL le 27 février 2004.
C'est dans ce même quartier qu'au sud de Kasumigaseki, le 20 mars 95, à l'ouverture des bureaux, que des commandos du gourou Asahara, dans le collimateur de la police, répandent dans les rames de métro des enveloppes bourrées de gaz sarin. L'arme chimique tue 12 personnes et se répand dans les couloirs où elle attaque 5000 passagers. Une scène d'horreur, des cris, une panique et des corps gisants sur les quais dans des souffrances ultimes. 8 années passent, une longue instruction et les révélations d'autres crimes hallucinants commis par la secte Daum qui tua même des enfants depuis son repère du mont Fuji. « Pour toutes ces folies dont vous n'êtes pas repentant, déclare le président de la cour, je vous condamne à la peine de mort. » Dans la salle, les familles des victimes restent de marbre, tandis que le gourou s'agite nerveusement, maîtrisé par les gardes. La secte, renommée Aleph, existe toujours. 1500 de ses membres croient en l'apocalypse et font aujourd'hui commerce dans l'informatique en toute impunité.
Donc c'était la correspondance de Joël Legendre qui a succédé donc parmi les correspondants de RTL à Jérôme Lidolf qu'on avait tout à l'heure. Alors, Christophe Sabouret, ce personnage, au départ, il fait du yoga.
Il fait du yoga. C'est un provincial monté à la capitale qui, à l'instar de quelques-uns de ses adeptes, pas une grande majorité, une petite minorité, voulait faire partie de l'élite. Et ça a été un candidat malheureux au concours d'entrée à l'université de Tokyo.
D'accord. Vous pensez que toutes ces frustrations peuvent avoir joué un rôle, quoi, en fait.
Ça n'a pas contribué à calmer ses ardeurs.
D'accord.
Toujours est-il qu'il s'est ensuite tourné vers le yoga. Mm-hmm. Et il a fait un ou plusieurs séjours dans l'Himalaya, où il serait parvenu à l'éviter.
Oui, voilà. Donc, oui. Il y a eu des articles dans les journaux, il a raconté des photos
parues dans la presse japonaise. Mm-hmm. Et il aurait aussi reçu la bénédiction du Dalai Lama.
D'accord.
En personne.
Ça pose quelqu'un.
Ensuite, ce serait.
Pardonnez-moi, c'est important. Je rappelle, vous êtes un spécialiste à la fois de l'Asie et du Japon. C'est important ce côté. Les Japonais sont. Je sais que c'est dur de faire des généralités, mais sensibles à cet aspect religieux des choses, où le fait qu'un type dise le Dalai Lama m'a béni, j'ai fait une expérience de lévitation dans l'Himalaya.
Alors le fait religieux ou le rapport à la religion des Japonais est certainement différent de celui des Occidentaux. Par exemple, au Japon, on dit que c'est le pays où on a le plus grand nombre de croyants. Il y a 200% de croyants. Pourquoi ? Parce qu'on peut en avoir plusieurs.
Ah,
elles ne sont pas incompatibles les unes avec les autres.
D'accord.
Maintenant, c'est plutôt, disons, le phénomène sectaire au Japon, la secte. Certaines opinions sur rue. Mmh. Elles ont même des partis politiques, comme le parti du centre au Japon. Celle-là était une secte millénariste. Mmh. Doit beaucoup à son, ouais, à son gourou.
Oui, c'est ça. Alors millénariste, ça veut dire venez chez moi, nous serons élus et nous échapperons au chaos.
Il y aura une fin
finale
du monde.
Ouais, d'accord.
Et seuls ceux qui auront répondu à l'appel avant seront sauvés. Faut juste rappeler que la secte Om Shinrikyo n'existe plus. Mm-hmm. En revanche, un de ses avatars, Alep, existe toujours.
Ah bon ?
Oui. Donc, à la question, est-ce que les Japonais craignent que ça ne se reproduise ? La réponse, ça pourrait être oui et non. Oui, parce que un de ses avatars existe toujours. Non, parce que cette secte, comme d'autres, font l'objet d'une observation qui est reconduite tous les 3 ans.
Oui.
Donc, les autorités sont extrêmement vigilantes.
Mmh. Alors, il faut dire aussi, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure dans le cours de l'émission, que, et vous l'avez confirmé, ils ont essaimé, et quand on dit essaimé, en Russie, ils avaient plus d'adeptes.
Ils avaient plus d'adeptes en Russie qu'au Japon.
Vous m'avez dit ça en micro,
oui. Oui, oui.
Et ils avaient donc aussi des visas permanents pour venir en Russie, hein, puisque on n'était plus en Union soviétique.
Oui,
mais ils avaient fait des publicités dans le métro de Moscou, des émissions de télévision. Ils avaient réuni des gens dans un stade. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en Australie ?
Alors en Australie, je ne sais pas ce qu'ils faisaient dans le détail. Il est
officiellement, ils avaient un élevage de moutons, mais...
Oui, non, il est possible qu'ils aient mené dans des territoires autres que le Japon des expériences, des expérimentations.
Ouais.
Pour la Russie, on a avancé parfois l'idée que le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, en quelque sorte... donner les résultats de ses propres recherches sur la guerre bactériologique, certaines unités sont de tristes mémoires, aux Russes et aux Américains, et un peu aux Chinois. Et il y a comme cela une tradition de recherche sur les armes chimiques et bactériologiques qui s'est perpétuée. En Russie.
À votre avis, est-ce que, alors évidemment, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais ce genre d'événement est encore possible aujourd'hui?
Je ne sais pas si ce genre d'événement est possible. En revanche, qui est...
Est-ce que ça a incité les autorités japonaises à interdire des mouvements ou des sectes, ou est-ce qu'il y a une grande liberté de ce côté-là qui n'a pas été touchée?
Les sectes qui ouvertement appellent à la protection avant la fin du monde sont ou interdites, donc on ne leur délivre pas
cette fameuse autorisation, oui.
Ou alors elles font l'objet d'une surveillance.
Oui, d'accord. Parce que la police japonaise, elle n'est pas mauvaise quand même.
Non, elle n'est pas mauvaise. Il y a deux fois moins de policiers au Japon proportionnellement par rapport à la France.
Christophe Sabouret, je vous remercie, c'est passionnant. L'émission est maintenant terminée. Je voudrais signaler que, en dehors des sectes dont je vous fais parler aujourd'hui, vous avez publié un livre sur Fukushima, avec un très beau titre, Fukushima, l'apocalypse et après, aux éditions Pascal Gallaudet. On va mettre ces références évidemment sur rtl.fr. Merci beaucoup. Merci. Et merci aussi à Karine Poupée de l'AFP Tokyo, Jérôme Lidolf, qui était avec nous tout à l'heure. Dans un instant, on va retrouver Flavie Flamand.